Vous écoutez France Culture.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Place de la Toile, le magazine des cultures numériques. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Au sommaire, aujourd'hui, plongé dans son ordinateur, Thibaut Henton répondra à la question « C'est quoi modérer un forum ?» Thibaut, que l'on retrouvera en toute fin d'émission pour son complément d'enquête, le son « Dieu vient de la machine et sauve la reine » quant à nos invités du jour, David Douillère et Saïd Branin, pour parler Internet et religion. Il y a une dizaine de jours, le pape François publiait son avis sur les communications sociales. Un avis qui a frappé par une phrase, un morceau de phrase plus exactement, dans lequel le pape affirmait qu'Internet était un don de Dieu. Assertion qui a fait le tour du monde, qui a été relayée, commentée, raillée parfois. La question est moins « comment le pape peut-il dire qu'Internet est un don de Dieu ?» que « pourquoi le dit-il ?» Ce qui nous oblige alors à nous intéresser aux discours de l'Église sur Internet et le numérique, à l'histoire de ces discours et de ce que l'Église appelle la communication sociale et qui a d'ailleurs existé bien avant Internet, à décrire aussi un peu plus avant les stratégies numériques de l'Église catholique, en France notamment. Mais très vite, il nous est apparu important de poser les mêmes questions à une religion, à une autre religion, la deuxième religion en France, l'islam. Les musulmans pourraient-ils dire aussi d'Internet qu'il est un don de Dieu? Quelle présence de l'islam sur les réseaux? Sous quelle forme? Regard croisé donc sur Internet par les deux premières religions de France ce soir dans Place de la Toile. Et d'ailleurs, juste un petit clin d'œil du hasard, hier, la une d'un quotidien musulman d'actualité était consacrée au pape François, nouvelle star du web. David Douillère, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université Paris 13. Vous êtes par ailleurs chercheur au LAPSIC. Vous travaillez depuis un certain temps maintenant sur l'Église et la communication. Et donc, en particulier sur la question du numérique, mais pas seulement. Vous êtes remonté beaucoup plus loin. Saïd Branin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vous êtes cofondateur et directeur de la rédaction de Ouma.com, qui est en France le premier site de débat et d'information sur l'islam francophone. Alors, on va commencer par déplier cette question de Internet comme un don de Dieu. Je le disais tout à l'heure, donc c'est un communiqué ou un avis rendu public par le pape François en prévision de la journée qui est consacrée aux communications sociales dans 6 mois, en juin, je crois, 14 juin, quelque chose comme ça.
C'est 1er juin.
1er juin, pardon. C'est un avis qui est long, dans lequel il y a plein de choses. Mais pourquoi, selon vous, David Douillère, ce qui a frappé particulièrement, c'est cette expression « Internet est un don de Dieu ».
Je pense qu'il y a un préjugé qui laisse à penser que l'Église catholique serait coupée de la modernité et rejetterait les moyens de communication. En réalité, il y a une pensée des médias dans l'Église depuis au moins les années 50, dans l'Église catholique, qui place précisément les médias et aujourd'hui Internet comme une ressource proposée par Dieu ou un don de Dieu depuis un moment.
Est-ce que les papes ou des avis ont dit ça, par exemple, de la télévision, que c'était un don de Dieu, ou de la radio?
Au moment du Concile Vatican II, il y a un texte qui s'appelle Inter Mirifica, qui fonde les journées mondiales des communications sociales, comme celle de juin prochain, et qui explique que les médias sont des merveilles et des dons de Dieu. Donc, c'est un moment, dans les années 60, où s'intègrent les pratiques réalisées par des catholiques dans les médias, dans la télévision, pour la radio. Et il s'agit de légitimer, en fait, ces investissements.
À qui précède
D'accord. Donc, je crois qu'on a commencé par la pratique, par des religieux ou des prêtres journalistes, producteurs télé, comme le Jour du Seigneur, etc.
Le Jour du Seigneur existait
Le Jour du Seigneur est né dans les années 50, me semble-t-il. Et a été conçu par un dominicain qui était acteur de ça.
Et est-ce que ça fait beaucoup de débat à l'époque, au moment de Vatican II, cette question de est-ce qu'on légitime ou pas l'usage des médias par l'Église ?
Pour nous, c'est un petit peu embêtant. C'était le texte sur les médias dans le Concile Vatican II, un texte secondaire qui a été voté un peu tôt pour divertir les pères avant de s'intéresser à des questions sérieuses. Donc c'était perçu comme tout à fait secondaire. Et quelqu'un comme le père Émile Gabel, qui avait été rédacteur en chef de La Croix dans les années 50, qui a développé une théologie de la communication, qui a promu cette notion de communication sociale, a été en cours de texte un peu dégoûté de la tournure que ça prenait, parce qu'il trouvait que les médias étaient réduits à des instruments, qu'ils étaient certes valorisés, mais qu'on n'allait pas assez loin dans une pensée moderne de la communication.
Mais ça aurait été quoi une pensée ? Qu'est-ce que ça peut être autre chose que des instruments, des médias pour l'Église ?
Pour Émile Gabel, c'est du coup advenu dans un texte catholique ultérieur qui est Communio et Progressio en 1971. Le texte sur l'Église a été en quelque sorte un peu déporté du Concile. Ils n'ont pas pu finir cette question et ils ont donné un mandat spécial à une commission qui en 71 a sorti Communio et Progressio. Et ce texte-là explique que le Christ est le grand communicateur, que la communication s'enracine en Dieu et que la communication humaine contribue à développer le royaume de Dieu. Donc on est au-delà du simple instrument des moyens de diffusion, comme on disait avant le Concile, pour placer l'Église et le christianisme au cœur de la communication.
Mais ça va dans l'idée que Dieu est verbe.
Dieu est verbe,
la communication est...
Qu'il y a une révélation, et comme cette révélation est une forme de communication, que Dieu, c'est, suivant la théologie chrétienne la plus classique, est devenu homme et que le Verbe s'est incarné. Mm-hmm. Moi, j'ai travaillé par exemple sur ça pour montrer que la théologie la plus classique de l'incarnation, en fait, c'est une théologie de la communication, aussi bizarre que ça puisse paraître, mais que Dieu se donne dans sa parole et devient humain par sa parole.
Donc c'est d'une très grande logique que le pape François, c'est absolument pas une phrase disruptive ou moderne ou très...
pas du tout.
Qu'il glisse ça.
Non. Je pense que la phrase disruptive dans le texte, qui est l'autre point de polémique actuellement, c'est la phrase qui est accusée de relativisme sur « Dialoguer ne signifie pas renoncer à ses propres idées et traditions, mais à la prétention qu'elles soient uniques et absolues. » Donc ça a beaucoup choqué, l'idée que le pape puisse dire que la prétention catholique n'est pas, ou chrétienne, n'est pas unique et absolue.
Pourtant, il n'aurait pas pu accepter Internet comme don de Dieu sans préciser cela, puisque précisément, Internet, c'est ça.
Vous le voyez comme ça, parce qu'il y a de la diversité nécessairement. Je pense que c'est pas ça. Pour lui, ça doit plutôt s'enraciner dans une théologie... De diversité ou œcuménique qui se développe au moment du Concile Vatican II, où il y a une prise en compte de la diversité des confessions et une volonté de ne plus être dans une, au moins apparemment, dans une dynamique de suprématie.
D'accord.
Donc accepter qu'il y ait d'autres approches religieuses, ça a donné les rencontres d'Assise avec Jean-Paul II, qui ont beaucoup choqué les intégristes catholiques. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, qui était difficile avant les années 60 pour l'Église catholique, de reconnaître qu'il y avait aussi d'autres religions. Légitime.
Et par ailleurs, il s'inscrit, le pape François, en disant cela aussi dans la logique de son prédécesseur, qui n'était pas quand même le plus grand pape modernisateur, mais qui a eu vis-à-vis des réseaux sociaux et d'Internet des propos qui étaient plutôt assez mesurés, assez acceptants, invitant les catholiques à aller sur les réseaux sociaux, avec une attitude, je ne sais plus, il avait une expression qui était assez jolie, un style de présence catholique.
Oui, c'est ça. Avec une dimension un peu éthique ou morale dans l'attitude prescrite sur les réseaux sociaux, mettant en garde, rappelant l'importance du silence. Mais en réalité, dans chaque année, donc il y a un texte pontifical pour les journées de communication sociale qui est diffusé quelques mois avant et qui prépare ces journées, si cette année aura lieu le 1er juin. Dans un texte de 2011, la position de Benoît XVI est très proche du texte de François aujourd'hui. On trouve l'apologie de la rencontre. La nécessité d'utiliser l'Internet parce que c'est une culture d'aujourd'hui.
C'est ça, il y a une dimension quand même qui est celle-là, qui est ne pas rejeter les cultures, et donc celle-là en est une, et accepter la culture numérique comme étant un élément des cultures, et donc devant faire partie aussi de la pratique catholique.
Ce qui se passe en 1963, au moment d'Inter Mirifica, c'est la reconnaissance des mass-médias. que l'Église catholique ne veut pas nommer comme tel. Et sur le conseil d'un jésuite, Enrico Baragli, le terme de communication sociale est créé pour désigner les masses médias, mais dans une perspective un peu personnaliste. Il faut s'adresser à des personnes et non pas à des collectifs. Donc c'est une intégration de la culture de la communication. Ce qui se passe depuis quelques années avec Jean-Paul II, puis un peu Benoît XVI, c'est l'intégration de la culture du numérique, qui est quasiment nommé dans ces textes, et avec cette idée que si on veut porter une parole, il faut être un peu inscrit dans la culture des gens. Donc ça, c'est un mouvement que fait l'Église catholique et le christianisme depuis toujours. Il y a un phénomène d'inculturation qui est de comprendre la logique du temps pour y instiller la dynamique chrétienne.
C'est-à-dire que là, on s'inscrit dans des logiques d'évangélisation qui ont largement précédé même les médias de masse. Enfin, ça s'est remontré où ça,
Tout à fait. Je pense qu'on a déjà ça chez Paul de Tarse, saint Paul, avec l'idée qu'il faut prendre en compte la culture grecque et la culture des païens, mais la dépasser pour dire que le Dieu chrétien et le Christ dépassent tout cela. Donc il y a une appropriation, appropriation n'est pas le mot, mais une volonté, dans un premier temps, de reconnaître les cultures pour que le message soit entendu et ensuite les dépasser.
D'accord. Donc, quand les papes successifs, puisque Benoît XVI disait déjà cela, expliquent qu'il faut se comporter en internaute, c'est-à-dire pas marteler un message, mais utiliser d'autres moyens qui sont les moyens du numérique, mais quand même avec l'idée qui est au final s'y comporter en chrétien de telle manière à ce que ça puisse servir d'exemple, ils s'inscrivent dans une logique d'évangélisation qui est une logique très ancienne, c'est ça ?
Bien sûr. C'est un peu nouveau dans l'Église catholique, au sens où Internet a été à un moment, je pense, perçu comme un repère de nazis, pédophiles, etc. etc. Ouais. Et que la dimension ou l'exigence morale présente dans l'Église catholique avait fait repousser un peu Internet. Donc on trouve dans tous ces textes, ça m'a frappé, une dimension du type, comme il y a dans celui-ci, le dernier, « N'ayez pas peur, n'ayons pas crainte d'Internet ». Enfin, on sent qu'il s'agit d'encourager des catholiques un peu réticents à utiliser néanmoins Internet. Donc ça leur pose un problème moral, mais néanmoins, il y a un consentement, une reconnaissance de la nécessité de l'utiliser.
Saïd Branine, est-ce que les musulmans pourraient dire, ou est-ce qu'on a eu des imams, des responsables musulmans qui ont dit Internet est un don de Dieu?
Oui, tout à fait, sauf que, donc, à la différence du catholicisme, c'est qu'en islam, il n'y a pas de clergé. Donc il y a des stratégies par rapport à Internet qui sont liées à tel ou tel courant, telle ou telle mouvance, tel ou tel shir, enfin dignitaire religieux. Mais la phrase qu'avait citée le pape me rappelle celle que m'avait prononcé le cheikh Kouftaro, qui est le grand moufti de Syrie, donc une figure religieuse très connue dans le monde musulman, en 2001. Donc en 2001, une période où il n'y avait pas encore Internet en Syrie, en tout cas Internet n'était pas encore réellement démocratisé, c'était plutôt l'usage, le monopole d'une élite, et m'avait dit effectivement qu'Internet était un bienfait de Dieu parce qu'il permettait de faire connaître le message de l'islam, notamment en Occident, où l'islam est souvent caricaturé, souvent victime de préjugés.
Ah, c'est intéressant ça. Il voyait déjà la question occidentale.
En ces termes-là, tout à fait. D'autant plus que lui, il était membre d'une grande taléka, enfin une grande confrérie soufie, la taléka Naqshbandi, qui a des millions de fidèles dans le monde, pas seulement dans le monde musulman, et qui est plutôt un islam spirituel, un islam porteur de valeurs, un islam porteur d'humanité. Il était assez agacé, entre guillemets, par l'autre islam, un petit peu l'islam concurrent incarné par les salafistes, qui est en fait l'islam importé tout droit d'Arabie Saoudite.
Et est-ce que d'autres hauts dignitaires musulmans ont eu des phrases équivalentes depuis ? Est-ce que tous les courants, les différents courants, se sont alignés sur cette idée-là ? Ou est-ce qu'on trouve des endroits où il y a des négations complètes de l'usage d'Internet ou des bienfaits d'Internet ? Comment ça se cartographie, disons ?
Il n'y a pas eu réellement eu de réflexion sur cette question. Par contre, beaucoup de shir, puisqu'en islam, il y a la notion de shir, de ulama, c'est-à-dire celui qui incarne le savoir de l'islam. Pour eux, Internet, dans la grande majorité de ces shir, Internet n'est pas un ennemi. Au contraire, c'est un moyen de véhiculer les messages coraniques. C'est un outil technologique qu'il faut utiliser et qu'il faut s'approprier. Il faut être présent sur Internet. Après, bien sûr, tout dépend de ce que l'on fait sur Internet, mais pour ces shir, Internet doit être utilisé, doit être intégré dans le monde musulman, d'autant plus que les jeunes dans le monde musulman sont vraiment passionnés par les nouvelles technologies. Enfin, vous allez dans n'importe quel pays musulman, j'ai été en Algérie, j'ai été au Maroc, tout le monde a des smartphones, enfin, tout le monde est vraiment réellement équipé et tout le monde a Internet en grande majorité dans le monde musulman.
Et est-ce que on trouve une logique similaire bon, moi, je connais évidemment très mal la religion musulmane, mais est-ce que on trouve des rapports avec une conception de ce qu'est Dieu, comme nous expliquait David Douillère avec le Dieu catholique, qui est communication, qui est verbe, etc. Et donc, du coup, il y a un rapport. Hein, enfin, voilà, c'est la communication comme autre chose qu'un outil. Ou est-ce que dans la religion musulmane, on le conçoit vraiment de manière fonctionnelle, c'est-à-dire c'est un outil pour diffuser la parole, pour mettre en rapport les gens, etc. Mais ça va pas au-delà de ça. Ou est-ce qu'il y a un rapport théologique, disons, entre
Non, pas du tout. C'est seulement un outil fonctionnel. C'est-à-dire il est important de faire connaître le message coranique, puisqu'il y a une notion dans l'islam, qui est la notion de dawa, de prédication. Donc, l'internet est un outil de prédication à part entière, tout simplement. Il n'y a pas une réflexion théologique entre internet et Dieu.
David Douillère, outil de prédication, est-ce que c'est conçu aussi comme ça par les catholiques, alors que justement dans le message du pape François, on a l'idée ne martelez pas le message surtout. Comportez-vous en catholique, comportez-vous en bon chrétien, mais ne martelez pas le message. On est dans une logique qui est assez différente là.
C'est pas comportez-vous en bon chrétien, c'est plutôt aller à la rencontre de l'autre.
Ouais, d'accord.
Aimer l'autre, c'est plutôt internet comme réseau d'amour, quoi, pourrait-on dire en caricaturant.
Ah oui, mais c'est marrant, l'expression.
Internet, réseau d'amour et de rencontre.
Ouais.
C'est
mythique,
la parabole
quoi.
J'évitais de dire ça, mais c'est un peu ça.
Vous pensiez
c'est
très fort à ça. Ouais.
Vous m'avez entendu. C'est pas une logique de bonne action. C'est une logique de témoignage par l'attention à l'autre. Et effectivement, ce qui est surprenant dans ce texte, c'est l'idée qu'il s'agit... C'est le témoignage chrétien ne se réalise pas avec le bombardement de messages religieux. Mmh. Mais avec la volonté de se donner de soi-même aux autres. Ça, c'est extrêmement curieux. Et ça vise certaines parties, je pense, de l'Église catholique, qui sont très affirmatives, auto-centrées. Ils parlent d'auto-référentialité plus haut dans l'Église catholique.
Et ben, ils pensent à qui, là ?
Pour éviter des messages trop cryptés.
Donc, ils pensent
à des courants traditionnalistes ou traditionnels, ou voilà, qui sont présents dans l'Église catholique.
Mmh. Saïd Branin, est-ce que le discours, même s'il n'y a pas un discours évidemment unifié, parce qu'il n'y a pas de clergé unifié, mais est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, que les chiites, les sunnites, je ne sais pas, alors après, d'autres catégories comme les salafis, etc., ont des usages qui sont à chaque fois un peu unifiés quand même, ou alors très différents, ou alors on va trouver... ces catégories-là, disons, ne correspondent absolument pas à des usages différents de l'Internet.
Non, ils ont un usage quasiment similaire. Le but étant... de convaincre l'autre qu'on détient la pureté religieuse, qu'on détient le message authentique de l'islam. Donc il y a une stratégie aussi bien de la part des salafistes, notamment les salafistes sont très présents sur Internet, ont été même présents bien avant les grands dignitaires de l'islam, comme le cheikh Qaradawi par exemple, qui est le grand moufti entre guillemets du Qatar, qui est une figure religieuse connue dans le monde musulman. Les salafistes avaient une véritable stratégie sur Internet, ce qui a fait dire à Keppel d'ailleurs que le salafisme ne se serait pas développé s'il n'y avait pas Internet. Donc eux, ils ont une stratégie parce qu'ils estiment qu'ils incarnent la pureté de l'islam, l'authenticité du message coranique et que la plupart des autres musulmans étant dans l'erreur, il convient avant tout de les convertir, entre guillemets, au salafisme. Salafisme qui n'est rien d'autre que une idéologie politico-religieuse importée d'Arabie Saoudite.
C'est-à-dire que c'est d'abord à l'usage des musulmans eux-mêmes.
Ah, tout à fait. C'est-à-dire, il faut bien
d'avoir ça. À destination
des
musulmans eux-mêmes, oui, d'accord.
Il y a une autre dimension. C'est complètement différent. C'est-à-dire que, comme l'islam étant éclaté, il y a plusieurs courants dans l'islam. Il y a les quatre écoles juridiques, mais il y a également d'autres courants. Donc chaque courant estime qu'il est légitime par rapport à l'autre courant. Donc il y a vraiment une stratégie d'aller convaincre l'autre qu'il est dans l'erreur, de l'amener à adhérer aux thèses qui sont les siennes. Donc il y a une stratégie salafiste qui est vraiment parfaitement rodée. Donc ils sont très présents sur YouTube, ils diffusent des vidéos de cheikh. Ils diffusent un certain nombre de discours qu'on peut entendre dans telle ou telle mosquée, qui sont diffusés en direct sur YouTube, pas seulement sur YouTube, dans tous les réseaux sociaux. Dès lors qu'on a eu l'expérience, par exemple, nous, au niveau d'Ouma, on a mis en place un forum qui s'appelait Mejlis.com. Ouais. Il a rapidement été identifié comme étant un forum qui était très fréquenté par les musulmans. Parce qu'il était très fréquenté, et bien les salafistes avaient une véritable stratégie à l'intérieur même de ces forums. Ils étaient présents en permanence, ils monopolisaient les formes de discussion, ils mettaient des liens vers leur cheikh, ils mettaient des messages de propagande. Donc c'était vraiment très difficile à gérer parce qu'ils avaient une véritable stratégie d'infiltration, entre guillemets, de ces forums.
Ah oui, ça c'est pour le coup, David Douillère, c'est une très grande différence avec le catholicisme, où il me semble que, disons, la stratégie, elle est destinée juste aux gens qui ne sont pas catholiques. oui, avant tout.
Globalement, oui, plutôt oui.
C'est l'évangélisation, quoi. C'est pas oui. la conviction des courants.
C'est la nouvelle évangélisation qui avait été proposée par Jean-Paul II et renouvelée par Benoît XVI sur le numérique, de l'évangélisation du continent numérique.
Ça, c'est les expressions qui étaient utilisées.
Oui.
D'accord.
Ah oui, absolument.
Continent
Benoît
numérique.
Benoît XVI, dans son message, dans un de ses messages des communications sociales. Je pense que ça vise aussi un certain nombre de propositions chrétiennes catholiques sur Internet, vise des gens qui, sans doute, peut-être sans le dire, mais se sont un petit peu éloignés de l'Église et vont peut-être pratiquer à distance. Par exemple, le site des Dominicains de Lille, une retraite dans la ville, qui a énormément d'abonnés et d'inscrits qui reçoivent des messages religieux, des prières régulièrement pendant la période qui précède Pâques, le carême, sont des gens qui ne sont pas pratiquants réguliers, semble-t-il. Enfin, il y en a en tout cas une bonne part. Donc il s'agit de s'adresser à des gens de l'extérieur ou à des chrétiens, mais pas forcément à des pratiquants. D'emblée.
Et c'est quoi le paysage, si on prend par exemple la France, c'est quoi le paysage de la présence de l'islam sur les réseaux français, Saïd Baranin?
Les réseaux français sont très divers, enfin les réseaux musulmans français sont très divers. On retrouve en fait les courants qui existent depuis des siècles dans l'islam. Donc il y a bien sûr les courants salafistes, mais il y a également les confréries soufis, qui est un petit peu l'islam spirituel. On retrouve également les quatre écoles juridiques, enfin les côtes malékites, chafiites, malékites, etc. Il y a quatre écoles. On retrouve également les courants chiites. En fait, l'islam de France reflète ce qu'est l'islam, c'est-à-dire différents courants, différentes mouvances. Mais tout à l'heure, vous avez précisé qu'effectivement, la stratégie catholique était notamment destinée, entre autres, aux non-catholiques. Il y a également une stratégie musulmane qui est destinée aux non-musulmans,
c'est
les confréries soufis. Mais le but n'étant pas de convertir les non-musulmans à l'islam, mais plutôt de présenter un visage rayonnant, séduisant, spirituel de l'islam.
Mais ça passe par quoi ça? Sur Internet, c'est quoi? C'est des sites,
Ce sont des sites qui diffusent des textes, qui diffusent des vidéos, qui diffusent des prêches. Et ils espèrent, à travers ces sites, toucher les non-musulmans pour leur montrer, d'une certaine manière, ce qu'est réellement l'islam, qui est avant tout un message de paix et de spiritualité, pour en finir, en gros, avec les caricatures, les préjugés qui sont véhiculés par certains médias.
Et par exemple, vous, Ouma, vous vous situez où, comment là-dedans? Comment vous vous positionnez?
On n'est ni dans l'un ni dans l'autre. C'est-à-dire que nous, à la base, on a avant tout un site de débat et d'information. On est certes dans une triple fraternité, dans une fraternité adamique, c'est-à-dire entre tous les hommes, abrahamique entre toutes les religions, mais également une fraternité musulmane entre tous les courants de l'islam. C'est-à-dire que nous, on essaye avant tout d'organiser le débat sur la présence de l'islam en France, mais également on n'est pas un site au sens confessionnel du terme, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à tous les sujets.
C'est un site au sens communautaire.
Ouais, c'est un site musulman, mais l'actualité vue à partir d'un point de vue musulman, mais un point de vue musulman qui atteint une pluralité de points de vue, puisque dans l'équipe il y a également des non-musulmans. On donne la parole également à des non-musulmans. On développe même l'autocritique au sein même de l'islam. Donc on est vraiment dans une stratégie de pluralité à l'intérieur de l'islam, mais également à l'extérieur de l'islam. Donc nous, on se définit comme un média à part entière, un média alternatif. On traite tous les sujets, on s'interdit de traiter aucun sujet, mais à partir, je dirais, d'une éthique musulmane. Une éthique musulmane, toujours avec ce souci.
C'est quoi une éthique musulmane?
Une éthique musulmane, c'est une éthique musulmane ouverte à l'autre, c'est-à-dire quelle que soit son appartenance religieuse, quelle que soit son appartenance ethnique, au culturel, on tient compte de la diversité, de la pluralité des individus. Nous, c'est très important. On estime également que les musulmans, en tout cas au niveau d'Oumma, ne sont pas détenteurs de la vérité, que la vérité peut être partagée par des chrétiens ou d'autres, par exemple. Ce qui fait qu'au sein d'Oumma, on a des auteurs chrétiens, juifs, mais également agnostiques, athées. En fait, tous les points de vue, pour peu qu'ils soient respectueux d'une certaine éthique, sont les bienvenus sur Ouma.
Et est-ce que c'est possible, David Douillère, de dresser un petit paysage comme ça de la présence catholique?
Ça me paraît très compliqué. Il y a une grande diversité. Alors, il y a les sites officiels, évidemment, du Vatican. Portailnews.va, etc. Ouais. Il y a des sites, des conférences épiscopales,
c'est
puisque les églises sont nationales et locales aussi. Donc il y a un site de la conférence épiscopale française et récemment, ils viennent d'ouvrir un site Découvrir Jésus. Alors ça, c'est assez intéressant parce qu'ils avaient l'impression que quand on tapait dans Google ou un moteur de recherche qui est Jésus, on tombait sur un site musulman. Ça les gênait beaucoup, donc ils ont travaillé années.
Pourquoi serait-il moins bien placé pour dire qui est Jésus?
D'ailleurs, Jésus est une personnalité très importante dans l'islam, il est même une figure centrale de l'islam. On dit même que c'est lui D'ailleurs, tout comme dans la religion catholique, c'est lui qui viendra annoncer la fin des temps.
Ouais. Roger Hernandez, l'islamologue, avait travaillé là-dessus, sur la figure de Jésus dans l'islam et dans Trois messagers pour un seul Dieu, il y a longtemps déjà. Mais les chrétiens revendiquent, notamment les catholiques, une conception divine particulière.
Donc, du coup, ils essayaient de se réindexer.
Avec des témoignages, avec des vidéos centrées sur ça. Alors sinon, il y a des sites d'ordre religieux. Ça, il faut le signaler, c'est une particularité. Des dominicains, une retraite dans la ville, des jésuites avec Notre-Dame du Web.
Ah, c'est les jésuites, Notre-Dame du Web.
C'est la spiritualité jésuite. Et avec des modes d'évangélisation différents et particuliers. Sur Notre-Dame du Web, par exemple, on a un usage de la peinture, de la culture, pour amener à une méditation religieuse. J'ai un collègue, Andrea Catellani, qui a travaillé sur ça.
Et puis il y a des sites, des monastères ont des sites parfois.
Il y a des sites de monastères, comme moi j'ai travaillé sur des PowerPoints chrétiens réalisés par les sœurs bénédictines de Sainte-Marie des Deux-Montagnes au Québec, près de Montréal.
On voudrait voir David Douillère.
Et vous avez en 45 slides une méditation, 45 vues PowerPoint qui est proposée avec de l'image, du son. Donc ça c'est le versant un peu spiritualiste. Après, il y a beaucoup d'autres sites, des sites assez traditionnels. Je pense que ce qui est absent, il y a quelques sites de communautés d'intellectuels chrétiens ou d'associations. Ce qui est absent, c'est une présence chrétienne de gauche, proche du monde du travail, etc. Me semble-t-il, qui était très présente il y a 20 ans, il y a 25 ans, et qui maintenant, je crois que les personnes ont vieilli et ce courant est minoritaire, c'est beaucoup moins présent sur le web. Ça existe, il y a Goliath, il y a un témoignage chrétien, mais c'est beaucoup moins vivant.
Ouais, intéressant.
Il y a peut-être une dominante un peu spiritualiste et un peu classique.
Alors on va poursuivre tous les deux notre discussion, et peut-être en abordant la question d'un point de vue plus pratique. C'est-à-dire en quoi est-ce que Internet change ou pas, d'ailleurs, les pratiques vraiment au sens très quotidien du terme, des croyants, qu'ils soient chrétiens, catholiques ou musulmans. Mais tout de suite, Thibaut Henneton, qui s'est plongé cette semaine dans son ordinateur pour répondre à la question « C'est quoi modérer un forum ?»
Des forums. Aujourd'hui, je sors du placard. Quand je ne suis pas à Radio France pour Place de la Toile, je travaille pour le mensuel Le Monde Diplomatique, où je m'occupe notamment des sites internet, des réseaux sociaux et de la modération des forums. Je fais donc partie de l'horrible gang des community managers. Horrible à cause de ce terme-là de manager de communauté. Le manager n'est-il pas l'individu néolibéral par excellence ? Et la communauté n'est-ce pas précisément ce qui fait défaut en société néolibérale ? Défaut ne signifiant pas qu'il n'y a pas de fausse communauté, de communautarisme, bien au contraire, c'est le pendant de l'absence de communauté politique authentique. Bref, être manager de communauté, c'est presque un oxymore. Je lis qu'on parle aussi de médiateur de conversation interactive ou de jardinier de communauté. C'est peut-être plus joli, ça veut pas dire que c'est plus joyeux. Je dis pas ça parce que je me réveille tout penaud du grand soir du web participatif censé démocratiser la planète. Je dis ça parce que c'est pas humain de devoir scanner quotidiennement des tartines de commentaires plus ou moins bien écrits, en anglais et en français, sur toutes sortes de sujets et de pays, sans interruption et a posteriori. Oui, parce que sur les forums du Diplo, les commentaires sont modérés a posteriori. Autrement dit, la modération des discussions obéit à la règle du « publie d'abord, automatiquement, vérifie ensuite, humainement ». À ceux qui s'inquiéterait à ce stade pour ma santé mentale, rassurez-vous, je dispose de quelques robots pour m'aider et écarter les spammers, ceux qui postent mille fois le même lien, ou enfermer les perturbateurs en bloquant leur adresse IP. Dans le jargon du logiciel qu'on utilise, ça se dit « enfermer dans la cage à trolls ». Ça demande un peu de discernement, certes, mais en l'occurrence, sur les blogs du Diplo, le seuil de tolérance est très haut. Donc, à l'exception des insultes directes, appels au meurtre et autres propos nazis, les commentaires sont tous publiés. Ce qui joue sur mon propre seuil de tolérance, de plus en plus bas lui, sachant que la plupart des conversations finissent par ne plus concerner que deux personnes, toujours les mêmes, qui rejouent pour la énième fois la même querelle, qui consiste à déterminer, et je mesure chaque fois l'ampleur de la tâche, laquelle des religions révélées est la plus cool, lequel des peuples est le moins vil, le tout sur fond de conflits israélo-arabes et de contre-révolutions égyptiennes. Le blog à peau à commentaires de ce type est évidemment celui d'Alain Grèche, Nouvelle d'Orient, qui est aussi le plus actif et le plus consulté avec celui de l'économiste atterré Frédéric Lordon. Tiens d'ailleurs, ça fait un moment qu'il n'a rien envoyé celui-là. Bon, pas le temps de faire la typologie du commentaire et du non-commentaire. Il y en a de lumineux, hein, soit dit en passant. Xavier, d'ailleurs, l'a fait dans une de ses chroniques matinales cette semaine. Le temps, tout de même, d'en lire un dernier, qui vient d'être ajouté sous l'article « L'armée américaine à la recherche de volontaires étrangers ». Article qui est devenu un véritable site de petites annonces où les internautes laissent leur numéro de téléphone et leurs adresses pressés d'aller grossir les rangs des troupes de la liberté. Qui a dit qu'Internet était un immense cloaque où les sphincters de la liberté ne cessent de déverser leurs productions innombrables? Fin de citation. Modérer des forums, ça rendrait presque Finkielkrautien.
Merci Thibault, on vous retrouve dans quelques minutes pour votre complément d'enquête. Vous tenez absolument à ce qu'on diffuse l'hymne national anglaise, God Save the Queen, qui match pour un hommage au match qui a lieu en ce moment même entre la France et l'Angleterre en ouverture du tournoi des Six Nations 2014. Mais plus sérieusement, si Dieu provenait de la machine, Santi Gold, God from the Machine. France Culture, Place de la Toile, le magazine des cultures numériques, où nous parlons ce soir religion et Internet, religion sur Internet, à l'occasion de la déclaration du pape François il y a une dizaine de jours, de l'avis qu'il a donné sur les communications sociales en prévision de la grande journée des communications sociales qui aura lieu le 1er juin, dans lequel il postulait entre autres que Internet était un don de Dieu, ce qui a provoquer quelques questions ici ou là et qu'on s'est chargé avec David Douillère de contextualiser, disons, et discuter aussi avec Saïd Branin qui dirige la rédaction de Ouma.com pour poser ces questions aussi, les adresser à la religion musulmane et voir comment est-ce que les rapports entre le numérique et la religion musulmane s'organisent. On a regardé ça de manière un petit peu haute, un petit peu théorique, disons, dans la première partie de l'émission, mais venons-en à la question des pratiques, vraiment, pour le coup. Est-ce que vous diriez l'un et l'autre que Internet est en train de changer ou change quelque chose aux pratiques quotidiennes des croyants dans l'une et l'autre des religions? Et commençons par la religion musulmane, Saïd Branin. Comment ça s'intègre dans les pratiques des croyants Internet?
Ça a quand même changé pas mal de choses, notamment lorsqu'on, dans l'islam, il y a la pratique quotidienne. Il y a notamment les cinq prières qui ont lieu à des horaires précises. Mais lorsqu'on est en déplacement, ou bien lorsqu'on change de ville, lorsqu'on part à l'étranger par exemple, il y a des logiciels qui permettent, sur Internet, qui permettent de calculer les horaires de prière à l'endroit où vous êtes exactement, par exemple. Il y a également le fait aussi, lorsqu'on quitte sa région, lorsqu'on quitte sa ville, eh bien, il y a également des logiciels qui permettent d'identifier où se situe la mosquée la plus proche, par exemple. Il y a également des logiciels qui permettent de trouver le restaurant halal le plus proche, quel que soit l'endroit où vous êtes d'ailleurs, aussi bien en France qu'à l'étranger. Donc c'est, en termes de pratique, c'est, je dirais, un bienfait pour de nombreux pratiquants musulmans. Mais ce qui a surtout changé la donne, c'est que jusqu'à présent, le savoir de l'islam était véhiculé par les imams, par les universités islamiques, était véhiculé par les confréries, il était véhiculé par les écoles religieuses, il était véhiculé par les mosquées. Or, avec Internet, tout ça a éclaté. Maintenant, lorsqu'on veut connaître l'islam, lorsqu'on pose une question sur le siam, on vient directement sur Internet chercher une réponse. On vient directement sur Internet savoir ce que je peux faire ceci, ce que je peux faire cela, que dit l'islam sur tel ou tel sujet. Il y a une connexion directe entre le fidèle et le savoir religieux. Il n'y a plus maintenant ces intermédiaires qui, jusqu'à présent, véhiculaient le message ou la connaissance de l'islam.
Est-ce que ce n'est pas, en un sens, aussi un problème, puisqu'on ne sait pas où on accède, et donc la réponse, elle change selon le lieu où on
accède.
Tout
à fait. C'est un vrai problème, parce que tout dépend, justement, du site où l'on va. Il est clair que si on va sur un site salaf, on aura une conception de l'islam conservatrice et rigoriste. Alors que si on vient sur Oumma, ben, il n'y aura pas de réponse toute faite, il y aura plutôt une réflexion sur d'où vous parlez, quelles sont vos préoccupations. On ne donne pas une réponse comme ça toute faite à une interrogation. C'est vrai que c'est un problème parce qu'il n'y a plus, je dirais, tous ces filtres qui permettaient d'adopter une réponse précise à une question précise. Maintenant, tout ça est éclaté, ce qui fait qu'on peut même dire qu'il y a même un déclin de ceux qui, jusqu'à présent, véhiculaient le savoir religieux. D'où le fait qu'en islam, actuellement...
Un déclin des autorités, donc, intellectuelles, religieuses.
Actuellement, il y a une crise de l'autorité religieuse qui est notamment due au fait que les autorités religieuses déjà entretenaient une proximité avec le politique, puisque en islam, en tout cas en termes musulmans actuels, le religieux est instrumentalisé par le politique. Les religieux sont des fonctionnaires, d'une certaine manière, de l'État. Donc ce sont des oulamas, ce qu'on appelle des chers de cour, des oulamas de cour. Donc il y avait déjà une crise d'autorité qui est due à la proximité entre ce compagnonnage entre le religieux et souvent des dictatures politiques. Donc il y avait une crise déjà de l'autorité religieuse. Mais je dirais, Internet a accéléré ce phénomène.
Mais avec quel risque ou quel bénéfice, hein, parce que ça peut être aussi, j'imagine, des rapports de bénéfices. Qu'est-ce qu'elle produit, cette crise? Elle produit quoi? Un éclatement? Elle produit une radicalisation de certains, et notamment de ceux qui accèdent sans avoir de savoir préalable? Qu'est-ce qu'elle provoque?
Il y a un aspect positif et négatif, notamment dans le monde musulman. Lorsqu'on était un jeune musulman, le savoir religieux auquel on était confronté, c'était le savoir du pays local. Or, avec l'Internet, on peut avoir accès à une autre façon d'être musulman, une autre façon de voir l'islam. Nous, notamment, je parle d'une expérience pratique, je parle au niveau d'Ouma, on a beaucoup d'internautes qui viennent du Maghreb. Donc, ils ont accès à une autre parole religieuse, une parole plus d'ouverture, plus axée sur le débat, plus axée sur la confrontation. Alors que si on reste dans la sphère musulmane classique des pays du Maghreb, c'est plus une parole d'autorité religieuse. Donc on assène des vérités, on n'a pas l'air de les contester.
Donc ça, c'est l'aspect bénéfique, effectivement, donc accès à d'autres formes de pratiques,
tout à
de culture, etc.
Là, c'est très intéressant. Ouais. Voilà. Par contre, on peut également accéder à une parole beaucoup plus rigoriste, beaucoup plus conservatrice, surtout si on n'a pas ce recul nécessaire. Lorsque, par exemple, un converti se pose des questions sur l'islam, donc il est important qu'il soit accompagné. Or, s'il se connecte directement sur des sites qui prônent un islam rigoriste, un islam conservateur, donc c'est problématique. Pourquoi? Parce qu'il aura le sentiment que l'islam, c'est ça. Parce qu'il n'aura connu qu'une seule version, entre guillemets, de la parole musulmane.
D'autant que ce que vous nous expliquez tout à l'heure, la présence, par exemple, des salafistes est très forte, parce qu'au fond, on retrouve, j'ai l'impression, dans la religion musulmane, et je vais poser tout de suite la question de David Douillard sur la religion catholique, le même phénomène que dans la répansion des idées politiques par ailleurs, qui est que les extrêmes par Internet est le lieu d'expression plus naturel des extrêmes.
Tout à fait. On se rend compte que les salafistes sont extrêmement actifs. Il suffit d'aller sur YouTube ou un certain nombre de réseaux sociaux, de taper islam, pour qu'on tombe tout de suite sur une quinzaine, vingtaine de vidéos en première page.
Moi, je suis tombé directement, quasiment, sur les vidéos postées sur YouTube par l'imam de la mosquée de Brest, Rachid Abou Deifa.
Qui est très actif.
Effectivement, qui défend un islam, si on peut dire.
Oui, plutôt conservateur.
Très, très conservateur.
Même très rigoriste, c'est clair. Donc, il y a une véritable stratégie, entre guillemets, des salafistes qui ont des moyens importants. Je ne sais pas quels sont les moyens d'Abou Deifa, mais en tout cas, les salafistes ont une véritable stratégie. Ils sont financés par la Ligue islamique mondiale, pour ne citer que cette association. Donc, ils ont des moyens, ils ont des relais. Ce qui fait que sur YouTube, notamment, pas seulement sur YouTube, mais notamment sur YouTube, parce qu'on peut diffuser des vidéos, les vidéos salafistes sont extrêmement nombreuses. Donc, il est clair que si quelqu'un, un converti à l'islam, ne connaît pas l'islam et tombe sur des vidéos de chers salafis, il est clair qu'il va épouser un islam plutôt conservateur, un islam plutôt rigoriste. Et ça, c'est un vrai problème.
Alors, David Douillard, est-ce que ça se formule de la même manière pour la religion catholique? J'ai l'impression que ce n'est pas exactement le même problème. Le rapport aux extrêmes, peut-être?
L'information et la communication par Internet pour les trois monothéismes sont assez différents. En revanche, ce qui était dit me fait penser à ce qu'un chercheur canadien, Jérémy Stolo, dit à propos du judaïsme. C'est que le rapport à la tradition, l'accès à la tradition même est changé par l'Internet et que ça remet en cause effectivement les sources traditionnelles de transmission. Ça permet un accès très très rapide au texte.
Donc à la fois il y a une désacralisation du texte qui peut être un...
Enfin, désacralisation, je ne sais pas, mais on y accède autrement que par un rabbin, d'accord, un maître ou par sa communauté d'origine. Ouais. Alors on n'a pas ça, me semble-t-il, dans le christianisme catholique. Parce qu'il n'y a peut-être pas le même rapport au savoir ou à l'étude qui a été beaucoup médié par les prêtres. Bon, il y a des laïcs qui font des études de théologie, mais c'est peut-être dans certaines parties de la population. Donc il n'y a pas exactement cette question de l'autorité, me semble-t-il. Qu'est-ce que ça change dans les pratiques? C'est très compliqué d'y répondre. Moi, par des études de terrain dans des diocèses, j'ai rencontré des catholiques très très investis qui n'avaient jamais entendu parler des sites Notre-Dame du Web, une prière dans la ville, etc. Ça n'existait pas pour eux, c'est moi qui leur apprenais. Hein. Donc je crois qu'il y a toute une partie des pratiquants ou des gens intéressés par le message de l'Église catholique qui ne sont pas connectés du tout.
Mais ça peut changer pour le clergé, lui, qui peut être incité à aller sur des sites. Je sais par exemple qu'il y a eu des études assez intéressantes d'Isabelle Jonvenot sur... Isabelle Jonvenot sur la question des sites internet dans les monastères. C'est très intéressant, c'est très passionnant et parfois aussi très, très drôle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait d'un site internet dans un monastère? Qui a accès? À quand? À quel moment? À quel internet? Etc. Bon, et ça change quelque chose à la pratique du clergé.
Ça se passe pour des jeunes prêtres en formation aussi. Ont-ils accès à internet? Au séminaire, il y a des prêtres qui lisent leur bréviaire, leur prière quotidienne, des laudes, vêpres, etc., sur un smartphone maintenant.
D'accord.
Mais je pense que ce n'est pas généralisé. En fait, ce que ça change à la pratique, il y a une première dimension qui est informationnelle. Alors, ce ne sera pas l'heure d'allumage des bougies de Shabbat ou du jeûne ou de la prière, mais ce sera les horaires des messes, des informations sur une paroisse, une communauté. Donc, il y a toute une dimension du web catholique français qui est informationnelle pour la vie de la communauté. Maintenant, les gens qui utilisent des ressources de prière en ligne, ça existe, mais je ne sais pas du tout le mesurer.
Oui, c'est très difficile.
Il y a des applications et peut-être sont des gens plutôt distants qui utilisent ça. La particularité, si je peux ajouter la question de la pratique chrétienne catholique, c'est que c'est une pratique qui est très, très ancrée dans le rite d'une part et dans une communauté sociale d'autre part. Donc il y a une dimension d'action humaine, sociale et matérielle à laquelle renvoient les textes d'ailleurs des messages pour les journées de communication sociale. Et le christianisme, semble-t-il, s'accomplit là, dans la charité. Souvent, est renvoyé au texte de saint Paul, l'action pratique est le signe de la foi, hein, l'action pour l'autre. Et du coup, c'est peut-être pour ça que ça ne peut pas se passer en ligne. J'intervenais, l'Église catholique organise des sessions sur Internet et foi. J'ai participé récemment à une journée de séminaristes sur Internet et la question de la foi. Et je leur ai demandé s'il y avait une charité numérique. Je voulais faire s'opposer les deux termes. Évidemment, ils ne peuvent pas répondre, mais ça montre les limites d'Internet dans une pratique de foi qui se fait en dehors, dans la communauté, d'une part, et d'autre part, parce que le christianisme catholique est fondé sur l'idée de sacrement, et qu'aujourd'hui, il n'y a pas de sacrement en ligne. Le sacrement, c'est-à-dire un certain geste...
On ne peut pas marier en ligne, par exemple.
On ne peut pas faire une eucharistie en ligne, ni baptiser en ligne.
D'accord.
On peut retransmettre, comme on le fait avec la messe télévisée depuis longtemps, des sacrements, mais l'événement de Dieu transmis par l'Église, puisque c'est comme ça que l'Église catholique pense le sacrement, comme présence de Dieu et présence à l'autre, n'est possible que dans la matérialité non informatique
et
non numérique.
Saïd Brahim, vous vouliez réagir?
Oui, on a eu deux cas de figure très intéressants qui montrent qu'Internet a changé la pratique, en tout cas influe sur la pratique de l'islam. C'est que durant cet été, donc le CFCM, pour la première fois, avait fixé la date du début du mois de Ramadan longtemps à l'avance, en se basant sur des données scientifiques. Donc tout le monde était d'accord, il y avait unanimité, consensus au sein même du CFCM, au sein des grandes mosquées. Et la veille du mois de Ramadan, un groupe de mosquées de la région parisienne, plus ou moins proche de l'Arabie Saoudite, ont tout de suite investi les réseaux sociaux pour dire non, cette date est complètement fausse, le mois de Ramadan n'est pas la date indiquée par le CFCM, mais plutôt le lendemain. Alors le lendemain, tout le monde se lève, parce que la polémique a eu lieu durant la nuit, vers minuit, 1h du matin. Le lendemain, tout le monde se lève, à commencer par moi. Donc on a le sentiment qu'on va jeûner, parce que c'est le jour de jeûne, c'était décidé, validé par les autorités de l'islam de France. Et là, panique à bord, c'est-à-dire que les gens ont entretenu cette rumeur. Est-ce que c'est aujourd'hui ou demain? Alors nous, on s'est dit, nous en tout cas, on a relayé le communiqué du CFCM en disant non, c'est bien aujourd'hui, comme le CFCM l'avait annoncé. Et que fait la mosquée de Paris? La mosquée de Paris, qui est membre par ailleurs du CFCM, opère un volte-face spectaculaire et dit non, ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain.
D'accord.
Ce qui fait qu'il y en a, il y a des musulmans qui ont jeûné aujourd'hui et des autres lendemain. Tout ça, s'il n'y avait pas eu Internet, il n'y a pas eu ce problème. C'est parce qu'il y a eu Internet, parce que des gens ont véhiculé une contre-information qui s'est diffusée comme une traînée de poudre dans les réseaux sociaux et qui a semé le doute.
Vous avez un deuxième exemple ou non?
Oui, un deuxième exemple, c'est-à-dire que ce qui a changé, c'est la pratique, ce qu'on appelle la notion de fatwa, c'est-à-dire l'avis religieux auparavant, lorsqu'on avait un problème lié à la pratique de l'islam ou une question liée à la norme religieuse, on allait souvent interroger l'imam ou par téléphone, on se déplaçait. Maintenant, il y a des sites, entre autres salafistes, mais pas seulement salafistes, qui permettent de poser une question et l'imam qui est en Arabie Saoudite, pose une question à un musulman où le problème se pose pour lui en France, il apporte des solutions depuis l'Arabie Saoudite.
D'accord. Et juste, dernière question avant qu'on donne la parole à Thibault, il n'y a pas de sacrement dans la religion musulmane.
Non, pas du tout, il n'y en a
pas. Mais est-ce qu'il y a des actes religieux qui peuvent s'opérer en ligne? Des conversions, par exemple?
Non, puisqu'une conversion, jusqu'à ma connaissance, il n'y en a pas, puisque la conversion à l'islam implique qu'il y ait deux témoins.
D'accord.
En plus de l'imam qui est deux témoins de réciter la shahada, mais ça peut se faire demain.
Ouais.
Ça peut se faire à partir du moment, surtout avec Internet. Donc, si on a deux témoins qu'on peut voir à travers
Skype,
par exemple, ça peut se faire, bien sûr.
Alors, tout de suite, le complément d'enquête de Thibault.
Attendez un instant, j'en ai pour une seconde. Il y a une question que je voudrais vous poser. Et, c'est pas que ce soit très important.
Thibault.
Oui, Saïd Brenin, vous parliez des forums infiltrés par les salafis sur Oma.com. Que sont-ils devenus?
Non, c'est sur Majlis, en fin de compte.
Ah oui, sur Majlis.
En fait, c'était une véritable guérilla, entre guillemets, puisque nous, on supprimait tous les propos prosélytes, tous les propos radicaux, on les supprimait, mais ils avaient toujours les moyens de revenir en changeant de pseudo, en changeant d'IP. Donc, c'est une lutte permanente. C'est des gens qui ne désarment jamais. Ils ont compris que le forum Majlis est un forum très fréquenté. Donc, c'est là qu'il y avait, entre guillemets, matière à convertir au salafisme d'autres musulmans. Donc, ils ont une véritable stratégie, ils se relaient même durant la nuit, parce qu'on ne peut pas modérer.
C'est toujours en cours.
Donc, et le problème, c'est que nous, on ne peut pas également censurer quelqu'un parce qu'il est salafiste. On est très respectueux, encore une fois, de la mouvance salafiste, dès lors qu'il respecte l'autre dans sa croyance. Mais encore une fois, ils ont une véritable stratégie, ils ne désarment jamais.
Dans une précédente émission, je parlais du fait que plus de la moitié des canulars informatiques sur Internet sont des canulars anti-musulmans. Et je me demandais si vous vous étiez saisi d'une façon ou d'une autre du problème. Vous avez évoqué vous avez évoqué les sites de l'islam soufi, censés répandre une parole plus chaleureuse, spirituelle. Comment vous faites face à ça, face
à l'islamophobie? Le problème, c'est que souvent, les blagues anti-musulmanes viennent de réseaux d'extrême droite, enfin de réseaux islamophobes. Donc, il est très difficile de contrecarrer ces paroles. Qu'est-ce qu'on peut faire face à une blague anti-musulmane? La stratégie qu'ont notamment ces sites-là, c'est de tenter de véhiculer l'image la plus présentable, entre guillemets, de l'islam. Donc, c'est très difficile de lutter contre ces réseaux d'extrême droite.
Et une question qui s'adresse à vous deux, mais peut-être à David Douillet. Vous disiez que ce qui manquait peut-être aujourd'hui au catholicisme, c'était d'incarner une gauche sociale, etc. Est-ce que ce n'est pas un peu la même chose aussi qui se passe pour l'islam? À savoir, si l'islam rigoriste est le mieux référencé sur Internet, etc., est-ce que ce n'est pas aussi le signe d'un échec à se saisir des questions sociales, d'inégalité, tout ça, peut-être David Douillet,
pour l'Église, non, je crois que c'est lié à un vieillissement des populations ou des croyants et un déplacement du positionnement sur l'échiquier politique des personnes. En revanche, il y a aussi des traditionalistes chrétiens catholiques, des intégristes, qui sont extrêmement présents et très visibles sur le web.
Ah oui, l'Église catholique se heurte exactement au même problème pour ça que l'islam.
En tout cas, la question sociale, en tout cas pour nous au niveau d'Ouma, est importante puisqu'on aborde ces sujets d'inégalité, d'ultralibéralisme. Les questions sociales sont majeures pour nous. Mais les salafistes ne se préoccupent pas du tout de ces questions. Ils se focalisent uniquement sur la foi, sur la tradition, sur la spiritualité, sur le dogme. La question sociale est totalement évacuée. Par contre, ils ont des moyens. Ça, c'est clair, ils ont des moyens parce qu'ils bénéficient du soutien d'un État, en l'occurrence l'Arabie Saoudite, qui a un budget pour la prédication salafiste.
Enfin, peut-être, je voudrais qu'on cesse, si c'est possible, à une sorte de parabole nouvelle. Tout à l'heure, Xavier, vous parliez du fait qu'au commencement était le verbe. Si on transposait ça aujourd'hui à l'Internet, il faudrait dire au commencement était le code. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous pouvez broder à partir de ça?
Investir le code religieusement, ça vous dit?
Oui, c'est ça. Est-ce que peut y avoir un code chrétien, un code musulman? Quelles valeurs peuvent être...
Vous savez, dans la conception... tous les deux, vous n'êtes pas obligés de répondre à cette question.
Absolument.
Dans la conception chrétienne de la communication, il y a une utopie de la communication, comme il y en a une dans le code. Réalisation du royaume de Dieu par la communication progressivement. Donc, ce sont des utopies un peu analogues.
Saïd Branin.
Dans l'islam, il y a cette notion de convaincre, de porter le message, mais sans contraindre. Ça, c'est très important.
Alors que le code, il est contraignant.
C'est vrai, mais...
Puisque code is law.
Il peut être aussi émancipateur, mais... Ah, c'est vrai qu'il y a des valeurs qui passent par lui, quoi qu'on dise.
Merci beaucoup Thibaut. Merci, vous n'étiez pas invité, mais merci beaucoup à tous les deux, Saïd Branin, qui dirige la rédaction de Ouma.com, et David Douillère, qui mène de conférences à Paris 13. Vos références sont sur la page de Place de la Toile, page où vous pouvez aussi réécouter cette émission pendant 1000 jours et la télécharger pendant un an. La semaine prochaine, nous parlerons lutte des classes et exploitation sur le web, la transition avec... Question politique était toute faite en écho au dossier que la très bonne revue Multitude consacre à cette question dans son prochain numéro. Donc lutte des classes et exploitation sur le web, ce sera samedi prochain 18h10 en Place de la Toile. Place de la Toile, Thibaut Henton, Xavier Delaporte à la technique, c'était Clément Daté, réalisation Vanessa Nadjar. Il est 19h, vous écoutez France Culture, tout de suite Elisabeth Tchungi sur écoute. Bonne soirée, bonne semaine.